Oscar Miloš, Contes et légendes de la vieille Lituanie. Histoire pleine de sagesse. Dans un village vivaient un paysan et sa femme. Un soir, ils reçurent la visite d'un seigneur qui leur demanda l'hospitalité pour la nuit. Trop heureux de l'aubaine, les deux époux l'invitent aussitôt à prendre place à table, et, après le repas, court préparer son lit. Le gentilhomme n'avait pas terminé ses litanies qu'il entendait sous sa fenêtre la conversation suivante. « Levez la tête et regardez-moi ça. A-t-on jamais vu chose pareille? Là, là, suivez donc mon doigt. C'est du côté, je crois bien, des poissons. Vous ne me direz tout de même pas, père Upeikis, qu'il ne se passe rien de nouveau. » « Eh oui, par ma foi, tout ce coin de ciel a une drôle de figure. Ça présage une guerre suivie d'un tremblement de terre et d'une grande disette. Vous n'y êtes pas du tout. Cela veut dire simplement qu'un garçon va naître cette nuit même dans la maison que voilà, que le seigneur qui y couche sera, pas plus tard que demain, au lever du soleil, père d'une mariotte, et que les enfants, quand ils seront grands, deviendront mari et femme. Vous pouvez me croire, je m'y connais comme pas un. C'est pas pour rien que j'ai gardé les moutons dans ma jeunesse. Un berger, ça en sait long. Allez, vous n'avez donc pas lu les évangiles ? » Le seigneur ne ferma pas l'œil de la nuit. Il se voyait déjà beau-père d'un rustre qui ferait la loi dans sa maison et hériterait de tous ses biens. Il adressa à Onufre, son saint patron, une prière jaculatoire, le suppliant de protéger sa race et d'augmenter sans retard d'une unité son contingent de chérubins. Puis il réfléchit. « Avec les saints, on ne sait jamais. Ma conscience est tranquille, j'ai prévenu ces messieurs. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je sais ce qu'il me reste à faire. » Au petit jour, le pieux chevalier alla frapper à la porte de l'hôtesse. Il la trouva couchée à côté d'un berceau où reposait un nouveau-né d'une beauté remarquable. « Par saint Onufre, qu'il est joli et qu'il a l'air malin. Il y a belle lurette que je désire un garçon, et il ne menait que des filles. « Vendez-le-moi, voilà 10 000 ducats. Il sera noble, riche et épousera une princesse. » Les parents, éblouis, s'essuyaient les yeux par contenance. « Allons, un bon mouvement, faites ça pour le bonheur de votre petiot. On n'en fera pas un seigneur comme les autres, qui mettent une croix au bas des paperasses. On lui apprendra à les signer et paraffer. Que je ne vous dis que ça. » Et à annoncer bonjour et bonsoir en latin. Les braves gens hochèrent gravement la tête, se grattèrent la nuque et firent 1000 caresses d'adieu à leur gentilhomme d'enfanson. Le seigneur prit le marmot et monta dans son carrosse. Au milieu d'une forêt obscure, il fit arrêter les chevaux et ordonna au cocher, avec un sang-froid imperturbable, de porter son fils adoptif dans un fourré, de l'étrangler et de lui arracher le cœur. Pas un muscle ne tressaillit sur la figure rougeaude du serviteur, qui ne manquait pourtant pas d'entrailles. Mais il était bien stylé, ainsi qu'il convient à un domestique de grande maison. Au moment d'exécuter l'ordre de son seigneur, il fut néanmoins saisi d'admiration et de pitié devant la beauté de l'enfant. Que faire? Pour son bonheur, il aperçoit, assoupi dans un buisson, un petit levreau. Il saute sur l'animal, l'étrangle et lui arrache le cœur qu'il rapporte tout pantelant à son maître. Un coup de fouet, les voilà partis. Le marmouset est resté seul dans la forêt, sur la couche encore chaude de l'infortuné rongeur. en arrivant devant sa maison, le Seigneur apprit la naissance d'une fille. Quelques heures après ces événements, le père de l'enfant vendu va dans la forêt pour y chercher du bois et trouve le petit abandonné qu'il reconnaît sans peine. Il le rapporte à la maison, et je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle joie il y fut accueilli. Lorsqu'il eut 7 ans, ses parents se souvinrent du programme d'éducation que leur avait esquissé le Seigneur. Ils y virent un signe de la destinée et envoyèrent le jeune homme à un maître d'école du bourg voisin qui lui enseigna l'alphabet et les principes de la grammaire. Plusieurs années s'écoulèrent encore quand un beau jour, le gentilhomme acheteur de nouveau-né s'arrêta de rechef chez le paysan. Celui-ci, retenu dans sa grange, lui dépêcha son fils. De propos en propos, le jeune homme en vint à raconter à l'étranger l'histoire de sa vie. Le chevalier se demanda par quel miracle il avait échappé au couteau du cocher. Toutes ses anciennes inquiétudes se réveillèrent dans son mauvais cœur. « Votre fils me plaît, dit-il aux parents. Je le trouve aimable, intelligent et beau. Je suis un homme libre de préjugés, moi. Nous descendons tous d'Adam et d'Ève. Nous sommes égaux devant Dieu notre Père. J'ai une fille aussi belle et aussi savante que votre fils. Il faut les marier. Vous me ferez le plaisir d'envoyer votre garçon à ma femme avec un billet de moi que je vais vous remettre ce soir avant mon départ pour la ville. » Ainsi dit, ainsi fait. En traversant le bourg le plus proche, le jeune homme va rendre visite au barbon qui en avait fait un puits de science. Il lui conte sa nouvelle aventure et lui montre le message du Seigneur. Dès qu'il fut seul, le maître d'école détacha habilement le cachet, ouvrit la lettre et lut ce qui suit. « Chère dame, faites passer, je vous prie, le porteur de la présente par le four à chaud. Dieu vous est en sa sainte et digne garde. » Le rusé brûla le billet et le remplaça par un autre où il traça ces mots. « Chère dame, faites, je vous prie, épouser dans les 3 jours notre scolastica par le porteur de la présente, Dieu, etc. » Après quoi, il y colla le cachet demeuré intact. Le jeune homme frappe à la porte de la maison seigneuriale, présente sa lettre à la chère dame. Elle la lit et relit en hochant la tête et en interrogeant de temps à autre à travers ses besicles le visage du prétendant. Mais la belle scolastica accourt et sa mère s'aperçoit sur le champ que le messager lui plaît. « Voilà le Seigneur que votre père vous destine pour époux. Examinez-le avec soin et dites-moi ce que vous en pensez. » La noble enfant fit le tour du jouvenceau, le considérant des pieds à la tête, par devant, par derrière et des 2 côtés. « Mais c'est un fort beau gars, madame ma mère. Vous êtes très bien, monsieur. Voici ma main, pour commencer, » ajouta-t-elle en rougissant. De retour à son château de bois, le Seigneur trouva sa Benjamine dûment mariée et se prit aussitôt à considérer par quels moyens il se débarrasserait le plus diligemment de son roturier de gendre. Celui-ci, cependant, faisait de son mieux pour gagner ses bonnes grâces et, comme il avait de l'instruction et du savoir-faire, il remit bientôt de l'ordre dans le service de la maison et dans la gestion des domaines confiés à ses soins. Mais ses succès ne lui valaient de la part de son beau-père qu'un surcroît de haine et de mépris. Le jeune homme se levait, tous les matins, à 6 heures, pour surveiller les fours à chaud, une des principales sources de revenus de la noble famille. Le père de la tendre scolastica le savait, et dans ses meurtrières rêveries, la calcination de la pierre s'associait avec une curieuse insistance à l'image de son héritier. La première idée est toujours la meilleure, répétait-il sans cesse. Je pensais à la chaux en griffonnant ma lettre escamotée. Et j'avais raison. Je ne sais quel démon a déjoué deux fois les projets pour lesquels j'avais pieusement sollicité l'assistance de mon saint patron. Mais là où le bienheureux Onufre a échoué, moi, je réussirai. Le four à chaud, je n'en démordrai pas. Un soir, il fait appeler ses ouvriers et leur dit « Le premier que vous verrez venir demain matin, vous lui faites faire la culbute dans le four. Avez-vous compris? Ou faut-il que la trique que voilà vous le répète ?» Au petit jour, comme son mari enfile ses choses pour courir au fameux four, Scolastica éprouve soudain une forte démangeaison de lui faire des confidences longues, variées et d'une nature tout à fait intime. Les ouvriers guettent, ils voient approcher un surveillant, le saisissent à la gorge et lui souhaitent bon voyage. Ah, que saint Onufre en entendit ce jour-là de belle! Quand la saison des récoltes déploya ses richesses, le jeune homme négligea un tantinet les fours pour courir aux champs et surveiller la grange. Le beau-père réunit de rechef ses ouvriers, leur ordonne de creuser derrière ce bâtiment une fosse profonde et les menace du gibet s'ils n'y enterrent au lever du jour la première personne qui s'offrira à leur vue. Mais que le vieux juif avait donc raison qui attribuait à l'amour une force au moins égale à celle de la mort. À l'instant même où le seigneur paysan va boutonner son surtout pour courir la grange, la tendre Scolastica étend le bras et défait le travail déjà commencé. Restez encore, mon mignon, le temps d'un soupir à mon côté. Papa peut bien vous remplacer là-bas ce matin. Papa, voyant le soleil haut dans le ciel, se dit « Le saligo est depuis longtemps mort et enterré. Allons verser sur sa tombe le pleur dont Laurence Sterne inonda jadis celle d'Abélard et d'Héloïse. » Tout guilleret, il court, il vole. 20 bâtons s'abattent sur sa tête. 40 talons de bottes lui martèlent le croupion. Et il va rendre au fond de la fosse préparée pour son gendre son dernier souffle d'hyène à face d'homme.